Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Comme Elle. Je suis Émilie, je suis votre hôte et la fondatrice de l'agence événementielle La Parenthèse Magique. Au fil des épisodes, je vous emmène à la rencontre de femmes au profil très différent mais qui ont tout un point commun, c'est d'être inspirantes de par leur métier, leur passion, leur vision de la vie, leurs objectifs, leurs ambitions. Des femmes connues ou moins connues, mais auxquelles on pourra toutes s'identifier et se dire bon, « si elles y sont arrivées, pourquoi pas moi ?» Ces conversations avec mes invités sont là comme de véritables boosts d'énergie positive, pour que vous puissiez prendre confiance en vous, vous dire qu'en y croyant très fort et en s'en donnant les moyens, eh bien finalement tout est possible. Et puis, que surtout, surtout, comme elles, vous osiez. Alors, sans plus attendre, je laisse place à l'épisode du jour. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir à mon micro Candice Reynaud. Candice, elle est à la tête du food truck La Canca, avec lequel elle sillonne les routes de Touraine pour vous régaler. Elle prône le bien manger gourmand. Mais avant d'être à la tête de ce food truck, qu'elle surnomme d'ailleurs Honoré, eh bien, elle a eu mille vies, mille métiers, tous très différents. Candice, ce qui la mène, ce sont ses valeurs. Il faut à chaque fois que dans son métier, elle se sente bien, vraiment, et qu'elle ait envie le matin d'aller travailler. Et donc pour ça, il faut qu'elle retrouve dans son métier toutes les valeurs qui lui tiennent à cœur. Et c'est ça qu'elle va nous expliquer et qui est très important pour elle. Vous allez voir, cet épisode, encore une fois, il est reboostant, il est inspirant, il donne envie nous aussi d'y aller parce que je peux vous dire que Candice, elle a eu des bâtons dans les roues et pour le coup, elle se retrouve quand même là aujourd'hui parce qu'elle y a cru à 2000% et qu'elle a eu le courage et la volonté d'arriver jusque-là. Alors, je n'en dis pas plus et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Candice.
Bonjour.
Écoute, merci d'avoir accepté mon invitation pour cet épisode du podcast. Alors, comme je le fais habituellement, j'aimerais que tu puisses te présenter brièvement, parce qu'on va évidemment y revenir en détail après, mais nous dire qui tu es, ce que tu fais dans la vie et si tu veux bien, quel âge tu as.
Oui, pas de souci, j'ai 43 ans tout neuf.
D'accord.
Donc je suis Candice, je suis maman d'une petite fille de 6 ans et demi. Le et demi est très important.
D'accord.
Puis je tiens le food truck La Canca.
Ok, bah voilà. On y reviendra après. Alors, ton parcours, j'aimerais qu'on y revienne un petit peu plus en détail. Aujourd'hui, tu disais que tu avais un food truck. Alors, on en parlera plus en fin d'épisode. Mais avant tout ça, comment tu en es arrivée au food truck? On va en parler. Quel est ton métier de base? Quelles études as-tu faites si tu as fait des études?
Oui, j'ai fait des études. Alors, tout, effectivement, ça va un peu surprendre. J'ai fait des études d'infirmière.
D'accord, ok.
J'ai eu mon diplôme, hein, donc j'ai été infirmière pendant quelques années. J'étais infirmière en réanimation à Saint-Gatien, qui n'existe plus.
Ok.
Et la vie a fait que je me suis cassé le dos dans l'exercice de mon métier. J'ai été opérée, etc. Je ne pouvais plus rester en position debout.
Ah, ok.
Donc, c'était un peu compliqué.
Ouais.
Il a fallu que je me reconvertisse une première fois. Et donc, je suis devenue manager de l'hospitalisation à domicile.
D'accord. Quand tu es devenue infirmière réanimation cardiaque, alors c'est pas rien. Moi, je n'y connais rien dans ces métiers-là, mais c'est pas la simple, entre guillemets, infirmière. Ça doit être pas si simple que ça comme métier. Est-ce que dès le départ, quand tu as commencé tes études, tu savais que tu voulais aller dans ce secteur-là ou pas du tout?
En fait, j'ai toujours... Mon cœur, c'est les autres.
D'accord, oui.
Et donc, je voulais prendre soin... Je voulais être... j'ai aussi le côté technique, en fait.
D'accord.
Je suis quelqu'un, alors pas qui s'ennuie parce que je ne suis jamais à m'ennuyer.
Oui.
Mais j'aime apprendre, j'aime chercher la petite bête, j'aime chercher les choses.
OK.
Et donc, la réa, c'est assez vite, pas imposé à moi, mais c'est assez vite devenu quelque chose qui allait me tenter. Puis après, les études, on voit pas mal de choses. Donc,
oui.
Plein de choses peuvent arriver. L'opportunité s'est présentée quand j'ai eu mon diplôme. Et donc,
d'accord.
Oui, je l'ai saisi parce que j'ai pu faire de la dialyse, on faisait des pansements à cœur ouvert, etc. Donc,
Non, mais il faut pouvoir, c'est pour ça que je te pose question, parce que moi, j'admire tous ces métiers-là, mais je sais que je ne pourrais pas, en fait, exercer ce genre de métier. Donc, souvent, on dit que c'est une vocation quand même.
Oui, c'est un vrai métier de cœur et c'est une vraie vocation.
Ouais.
C'est pour ça que ça a été un déchirement, en fait, de quitter ce métier, mais je ne pouvais pas.
Bien sûr, pas faire autrement, le corps t'empêchait, quoi.
C'est ça. Et la réanimation, en fait, il y avait le côté technique, mais aussi un côté humain énorme, puisque même si beaucoup de patients sont endormis, il y a toute la famille à gérer autour. Et donc en fait, ceux qui ne connaissent pas le métier, effectivement, ont tendance à dire oui, toi t'es juste une technicienne.
Oui.
Non, en fait, mais c'est pas, il y a pas de question d'élite ou de quoi que ce soit. Hein. C'est
oui, juste, bien sûr.
Voilà, moi, voilà, l'AREA, c'était que ça allie vraiment les deux, c'est la technicité et un côté humain juste énormissime, quoi.
Ouais, je comprends. Non, mais je comprends pourquoi tu t'es orientée dans cette voie si tu nous dis que les autres sont importants pour toi et du coup, fallait que tu trouves un métier où tu étais en lien justement avec les autres et tu les aidais. Donc du coup, tu nous dis qu'effectivement, à cause de cet accident de travail, tu ne peux plus exercer ta profession d'infirmière en réanimation. Du coup, manager hospitalisation à domicile, ça veut dire quoi?
Ça veut dire, en fait, il y a les hôpitaux, les cliniques, ça, oui. Tout le monde connaît. Et puis, il y a des structures qu'on appelle hospitalisation à domicile.
D'accord.
Qui permettent de garder les gens chez eux sans forcément les hospitaliser, mais ayant besoin quand même de soins assez techniques.
D'accord.
Donc, okay. C'est toute une structure qui se met en place.
Ok. Mais toi, tu étais manager, donc est-ce que tu étais sur le terrain?
Alors, j'étais sur le terrain, pas au quotidien,
oui.
Mais j'allais chez les gens, voir déjà si tout se passait bien. J'allais pour faire les prévisites, pour tout mettre en place, pour D'accord. tout organiser, caler les choses. Et ensuite, gérer le quotidien des organisations, des soignants, des commandes, des patients, etc.
Ouais, ok. Donc, ça se passait bien? Comment tu oui. vivais ce nouveau métier?
Alors, oui, ça se passait très bien parce qu'en plus, je faisais aussi de la formation des équipes. Et moi, j'ai okay. toujours aimé, effectivement, encadrer, manager, ouais. transmettre. Mais il faut aussi être honnête, le monde hospitalier s'est dégradé sur le côté humain.
Oui, ok.
Ça touchait trop aux valeurs pour lesquelles j'avais choisi ce métier. Mmh. Je n'étais plus moi-même, c'est-à-dire que je pleurais tout le temps, j'étais en stress tout le temps de savoir si mes patients avaient été pris en charge correctement. J'y arrivais plus, en fait. Et quand les patients étaient hospitalisés, j'avais parfois des retours. J'appelais « Monsieur qui ?» Non, pour moi, ce n'était pas possible. Ça m'impactait oui. vraiment trop.
D'accord.
Et donc, j'ai décidé de retrouver quelque chose où je retrouvais mes valeurs. Mmh. Et je suis rentrée à la SNCF pour faire de la sécurité ferroviaire.
D'accord, donc c'est là où ça doit étonner tout le monde, parce que tu passes quand même du milieu hospitalier à la SNCF. Alors explique-nous comment la SNCF
Mon frère était contrôleur, mon meilleur ami y travaillait. Donc j'étais, entre guillemets, bercée par ce qui pouvait s'y passer. Et D'accord. puis un jour, on me s'est dit, mais... En fait, le parallèle est assez énorme. Alors, je vois à ton regard
que tu me
prends pour une folle. Mais alors déjà, travailler en horaire décalé, je savais ce que c'était.
Oui.
Travailler en uniforme, je savais ce que c'était. Mm-hmm. Prendre soin des gens, mine de rien, pour les emmener d'un point A à un point B avec de la sécurité ferroviaire,
oui.
Je savais prendre soin des gens avec de la sécurité. Après, il fallait que j'apprenne le train. Comment fonctionne le train et toute la sécurité ferroviaire.
Bon, ça se tient, tes explications.
et donc, c'était très enrichissant aussi, parce que j'ai recommencé à zéro, j'ai gravi les échelons au fur et à mesure, j'ai appris un tas de choses où si la SNCF m'entend aujourd'hui, mais communiquez sur ce que vous faites, parce oui. que c'est énorme, en fait, ce qu'il faut pour faire rouler un train, avec la sécurité que ça implique, avec les conséquences que ça implique. On parle toujours des retards, mais quand on voit que quelqu'un tire juste le signal d'alarme parce qu'il est monté, mais la valise de sa femme pour lui dire au revoir dans le train, et que il met 20 minutes au train, et il met une heure à ceux qui sont derrière parce que les trains peuvent pas doubler. Enfin, ça c'est un détail, mais
oui.
les exemples sont, on peut y passer 4 heures, Emilie, on va pas le faire.
D'accord.
Mais c'est énorme, et à un moment c'est presque frustrant, en fait, de se dire mais on fait un tas de choses et personne le voit, personne. J'ai vu un moment, il y a eu un gros incident, je ne me rappelle plus l'incident. Le lendemain, en gare, un journaliste vient. Et j'étais responsable de la gare, donc le monsieur s'adresse à moi. Et il me dit, je vais faire le tour de la gare, je vais rester avec vous. Et en fait, le monsieur, le journaliste, cherchait que des gens qui ne seraient pas contents.
D'accord.
Tous ceux qui lui disaient, non, ça s'est rétabli vite, on est contents, etc. Il ne les enregistrait pas, il ne prenait pas de notes.
Oui.
Donc à un moment, je me suis fâchée gentiment en lui disant « Mais vous cherchez quoi en fait ?» Je dis « Ça fait 15 personnes qui vous disent qu'ils sont contents de la réaction, qu'on ait pu rétablir, qu'ils ont pu prendre leur train. Et vous cherchez celui qui ne va pas être content.
Oui. »
Pour qu'il a remballé ses affaires, il est parti. Mais ça caractérise assez bien en fait les choses.
Oui, je comprends. Et du coup, alors tu t'es formée? Tu as repris oui. tes études? Enfin, comment ça s'est passé?
Oui, tout à fait. Je suis partie quelques mois en formation à Rennes pour apprendre le métier. Après, j'ai eu une deuxième formation de 6 mois sur Paris, Nanterre. Okay. Et puis après, bah, le terrain.
D'accord. Et tu avais quel âge à cette période-là, approximativement, qu'on se rende compte
J'avais 33 ans.
Ok, d'accord. Très bien. Donc, tu nous parles un petit peu des coulisses. Et effectivement, c'est vrai, tu as raison. On ne se rend pas compte de tout le travail effectué. Tu es dirigeante de proximité, la gare de Saint-Pierre-des-Corps dans le 37 près de Tours. Donc, tu te formes. Qu'est-ce que tu faisais, toi, concrètement Alors, tu nous l'as un petit peu expliqué, mais est-ce que tu peux nous détailler un peu plus précisément tes missions en tant que dirigeante de proximité
En fait, c'est déjà que tout fonctionne bien au niveau de la gare.
D'accord.
Déjà, coordonner les agents, s'assurer aussi qu'ils font bien leur métier, mine de rien.
Oui.
T'as un peu le côté qui peut être perçu un peu comme gendarme, mais c'est aussi... la règle numéro un de la sécurité, c'est-à-dire qu'on ne peut pas jouer avec la sécurité des gens.
Oui, c'était toi qui étais garante de ça.
Exactement. Okay. Donc c'était vraiment, une grosse partie de mon métier, en fait, de vérifier les systèmes de sécurité, vérifier que les agents soient formés, vérifier que les agents appliquent les procédures.
Oui.
Et puis après, tout ce qui se passe en gare, en fait, au moindre incident, même s'il y avait, là ça a changé un peu aujourd'hui dans les organisations, mais il y avait l'agent de départ, celui qui gère les circulations, le chef d'escale. En fait, à un moment, ils viennent chercher un dirigeant parce que ça peut en vrille sur des situations. Et puis aussi, aller donner la main à la patte assez régulièrement.
Ok. Ouais, donc tu avais un poste à responsabilité, mine de rien, en fait, à la SNCF.
Oui.
Ok. Tu as fait ça combien de temps
Je suis rentrée en 2012. Oui, c'est ça. Et je suis partie en 2019.
D'accord. Ok. Donc oui, mine de rien, tu es restée quelques années. Comment ça se passait ? Est-ce que là, pour le coup, tu étais épanouie ? Est-ce que tu retrouvais les valeurs que tu cherchais dans ton métier ?
Au tout début, oui. C'est-à-dire que déjà, de recommencer à zéro, en fait, j'étais agent d'exécution. Et c'est pareil, sans aucun jugement de valeur, à un moment, ça fait du bien de mettre son cerveau au repos et je faisais ce qu'on me demandait.
Oui.
Et voilà. Et donc, ça fait du bien déjà de se remettre dans le bain, de se laisser porter en appliquant les procédures, etc.
D'accord.
Et puis après, quand on gravit les échelons au fur et à mesure, on reprend les postes à responsabilité, etc. Donc oui, c'était une très belle expérience, mais c'est un secret pour personne. Il y a une très très grosse période de grève en 2018.
Oui.
Et donc il a fallu pallier au poste pour assurer le service minimum. Mmh. Toujours on critique la SNCF, mais partout où il y a des grèves, là on a vu avec les éboueurs, etc., mine de rien, SNCF, il y a quand même service minimum qu'il n'y a pas ailleurs.
Oui.
Donc, il est assuré souvent par les dirigeants ou par les volontaires.
D'accord.
J'ai un bébé en bas âge. Enfin, voilà, beaucoup de ça, c'était un petit peu compliqué. Je comprenais aussi les revendications de mes collègues, mais j'ai cette valeur du travail qui m'a été inculquée par mes parents. Et donc, j'avoue que je ne fais pas grève.
D'accord. Oui, non, mais chacun fait ce qu'il veut.
Voilà, exactement. Donc, j'ai tendance aussi à rappeler que c'est un droit, pas un devoir. Mm. Et donc, cette période de grève m'a beaucoup secouée physiquement parce que beaucoup sur le terrain, psychologiquement parce que mince, en fait, au final, j'étais qu'un pion au milieu et je ne pouvais pas agir ni dans un sens ni dans l'autre. Et puis, les réorganisations qui arrivaient pour justement remettre des choses en place, modifier les choses, qui étaient un peu le sujet des grèves. Enfin, il y avait beaucoup de choses qui faisaient que ça ne répondait plus à mes valeurs, en fait.
Mmh, je comprends.
Et à un moment, en fait, je me suis dit, mais il faut que je fasse quelque chose, quoi. Je ne peux pas cautionner ce qu'on me demande de faire dans les réorganisations à venir. Celle qu'on me demande, je vais l'amener à bien parce que j'ai cette conscience du travail bien fait.
Oui.
Mais par contre, j'ai vu avec ma direction, je leur ai expliqué. Je dis, attendez, j'ai une idée, donc je vous parlerai après.
Oui.
je leur ai présenté. En gros, je ne partais pas sur un coup de tête. Je leur ai montré le business plan, tout ce que je travaillais la nuit quand je ne travaillais pas ou que je ne dormais pas.
Ah oui, ok.
Et donc, ils m'ont dit, ok, on te suit. On t'accorde la rupture conventionnelle pour que tu puisses mener ton projet. On comprend que tu ne retrouves plus ta place ici. Alors, au début, ils ont essayé Candice, on va trouver des solutions, etc. Je dis, mais vous allez trouver quoi comme solution ? Je ne sais pas, on verra. Non.
Oui,
on
ne
va pas faire ça. moi, j'ai 38 ou 39 ans, je ne me rappelle pas. Dites-moi. Je dis, on va où ? Mais on ne sait pas, mais on trouvera. Non, on ne va pas faire ça.
Oui.
Donc voilà, on s'est mis d'accord. J'ai mené à bien le projet jusqu'à la fin de l'année, donc 2018.
D'accord.
Et je suis partie au 31 décembre.
Ok, mais c'est intéressant d'entendre tout ça parce que, et c'est d'autant plus important qu'on comprend qu'en fait c'est tes valeurs, il faut que tu sois bien dans ton travail et je pense que ça c'est primordial,
ouais.
Plutôt que de souffrir d'un travail qui nous botte pas du tout, se lever le matin avec l'envie juste de rester chez soi en boule parce qu'on n'a pas envie d'y aller, c'est horrible, donc c'est bien d'avoir ce courage finalement de dire non, stop, en fait là je peux plus, il faut que je change. Donc de nouveau tu te poses la question, tu te questionnes un petit peu sur ce que tu vas faire ensuite, mais je crois que tu as une idée à un moment donné, est-ce que tu peux nous parler de cette idée de ce déclic un petit
oui.
peu.
Donc c'était en janvier 2018, j'avais quelques jours de repos.
D'accord.
Truc de fou. J'ai dû avoir 3 jours. Et donc, j'allais me promener. Mais sur l'heure du déjeuner, puisque je rejoignais mon mari.
D'accord.
Qui travaillait aussi en gare.
OK.
Et donc, j'allais le rejoindre. Et donc, sur le chemin, je croise les gens que je vois tous les midis, en fait. Puisque
oui.
Avant, j'étais en horaire décalé, j'étais en 3-8. En étant devenue dirigeante de proximité, j'étais en horaire de bureau.
D'accord.
Donc, j'avais une pause le midi. Et habituellement, le midi, je ne faisais juste pas attention. Soit j'allais faire une course, soit je retournais au bureau et je bossais, en fait, et je donnais oui. du temps à mon patron. Et ce jour-là, en fait, je lève la tête, il faisait beau, enfin un truc de dingue, hein.
Ouais.
Repos, beau. Et je me dis, mais ces gens-là, mais tous les midis, ils sont comme moi, en fait, mais qu'est-ce qu'ils font, leur pause du midi? Donc, ils ont une course à faire, une fois qu'ils ont mangé, ben, soit ils attendent sur un banc parce qu'il fait beau, soit ils donnent du temps à leur employeur. Et donc, l'idée est née de créer le cooking dîner.
D'accord, alors explique-nous ce que c'est.
Qui était l'idée de sur cette pause déjeuner, en fait, de pouvoir venir déjeuner dans un endroit de manière assez rapide,
oui.
mais en même temps de cuisiner son dîner. Et
okay.
donc, les gens choisissaient une des recettes qui était mise à disposition. Les courses étaient faites, puisque moi, je préparais tout en amont.
Ouais.
Ils préparaient leur dîner et ils repartaient avec leur dîner. Donc, ça veut dire qu'ils avaient, sur cette fameuse pause... C'était des recettes courtes, hein,
bien sûr. Oui, j'imagine.
Mais ça leur permettait d'avoir mangé dans un endroit sympa, parce que c'était la cancanette.
Oui.
Et puis, voilà, de repartir avec leur dîner et d'avoir passé un bon moment, en fait, parce que, bah, parce que c'était, ça restait convivial. Il y avait les autres qui venaient préparer. Moi, j'étais toujours un peu présente. Ça permettait de discuter, de changer un peu cette pause et d'alléger la soirée qui... Déjà, bah, chez moi, est super lourde cette soirée. Quand on arrive, on a récupéré les enfants, les devoirs, faire à manger. Ça finissait souvent en coquillettes de jambon. À un moment, il faut arrêter. Hein, c'est bon, les coquillettes de jambon, mais pas tous les soirs.
D'accord. Donc, en fait, tu nous expliques que on va y revenir en détail, mais oui. tu crées un restaurant. En
oui.
fait, finalement, on peut appeler ça un restaurant qui s'appelait La Cancanette, qui
oui.
était à Tours, dans le
oui.
centre-ville de Tours. Et donc, le concept du cooking dinner, c'est que les gens viennent pendant leur pause déjeuner pour cuisiner et préparer le dîner.
Oui.
C'est fou, j'adore ce concept en fait. Est-ce que c'était déjà en France
non,
ou pas ?
Non, ça n'existait pas.
D'accord, ok.
C'est un concept qui est déposé protégé.
Ah oui, bon, ça rigole pas. Bon.
Bah, on s'est dit que si ça n'existait pas, autant quand même. Voilà,
mais non, mais tu as raison. Et c'est là où on voit toute l'importance de ces petites idées que des fois on griffonne sur un papier. Toi, c'est tout bête en fait. Tu vas penser à ça et tu vas te dire, mais en fait, il y a un truc à faire.
Ouais.
Fou, bon. Donc tu crées La Cancanette en 2019, si je ne me
oui.
trompe pas. Comment ça s'est passé? Parce que tu es quand même de base infirmière, après tu passes manager d'hospitalisation à domicile, tu te formes pour rentrer à la SNCF, chez qui tu vas rester plusieurs années. Tu as cette idée, ce déclic, mais la restauration, c'est quand même pas un secteur qui est si facile. Je n'ai jamais été dans la restauration, mais on l'entend beaucoup, c'est un domaine particulier, avec là aussi des horaires peut-être un peu difficiles. Et puis surtout, comment on fait pour lancer un restaurant? Quelles sont les étapes? Comment tu fais pour lancer le projet?
Eh bien, déjà, on sort le deuxième pied du sabot.
D'accord.
On retrousse ses manches.
Oui.
Comment on fait? Déjà, il faut avoir envie.
Oui.
Après, j'ai fait énormément de recherches sur un business plan, sur les études de marché,
oui.
sur les différences SARL, SASU, enfin les trucs.
Oui.
Voilà. Donc, j'ai bien détaillé mon concept donc, que j'avais protégé.
Oui.
Et puis j'avais aussi été voir une expert comptable.
Ouais,
j'ai amené
okay.
mon projet pour qu'elle me dise ce qu'elle en pense. Elle m'a rappelé, elle m'a dit Candice, je prends jamais de commerçant, mais toi je vais te prendre.
Ah chouette.
Ouais, j'avoue. Enfin voilà, c'est ça. Ça,
bah, ça
ouais.
donne
ouais,
un
ça
élan
donne
positif.
De l'énergie,
quoi.
Ouais. Mmh. Elle me dit, j'ai rarement vu en fait quelqu'un qui m'amène un businessman. En principe, les gens arrivent avec des chiffres en vrac,
oui.
et puis après c'est à moi de me débrouiller. Et là en fait, à part quelques écarts de hors taxe TVA. Ouais, c'était solide, quoi.
Et tu l'avais fait seule, ce business
ouais,
plan ?
Ouais, j'avais fait
ah
seule.
Ah ouais, chapeau, parce que...
Et donc, j'avais fait beaucoup, vraiment beaucoup de recherches. Après, on a des amis côté de Cap-Ferré qui ont ouvert un magasin de produits bio avec un restaurant à côté, etc. Donc on avait beaucoup échangé sur les petites erreurs à pas faire, les logiciels qu'ils avaient utilisés. Donc je vais gagner un petit peu de temps aussi là-dessus.
C'est des petits détails, mais qui sont importants. Ouais.
Et puis, ça avait été eux les premiers à adhérer totalement à l'idée. Mais nous, on rêve d'un truc comme ça, déménager, venir au Cap-Ferré. Bon, c'était pas l'heure du jour. Et puis après, l'envie, la motivation. Après, je cuisine depuis que je suis toute petite, que ce soit avec ma grand-mère, un peu avec ma maman. Ma maman partait beaucoup en déplacement. Donc, c'est vrai que c'est moi qui faisais à manger pour mon papa ou mon frère quand ils étaient là. Voilà, j'avais toujours eu envie un peu de cette cuisine. À 16 ans, quand on recevait du monde avec mon papa, c'est souvent nous deux qui cuisinions. D'accord. Il disait, vous avez qu'à ouvrir un resto. Mais c'était la blague de famille, on va dire.
Eh bien, écoute, la blague est devenue réalité, en fait.
Mais c'est en y repensant, mais bien après, en fait, quand j'ai ouvert, j'ai dit, mais ça fait 30 ans qu'on en parle, en fait, de cette idée, quoi.
D'accord. Et alors là, parce que oui, je disais, la restauration, ce n'est pas un domaine qui est si facile au niveau des horaires. Et puis, quand on n'y connaît rien, ce n'est pas rien de se lancer dans un projet comme ça. Mais il y a aussi la cuisine,
oui,
en fait, parce que ça ne s'improvise pas de cuisiner. Il y a l'épisode juste avant où on va parler cuisine et justement où j'explique que moi, je cuisine, mais jamais je pourrais cuisiner pour les autres, ouvrir un restaurant parce que je ne suis pas assez bonne là-dedans. Donc, toi, en fait, tu avais déjà cette passion, peut-être, entre guillemets, pour la cuisine, qui a fait que tu avais déjà ces connaissances et ces compétences, ou est-ce que tu t'es formée un petit peu?
Non, alors je me suis formée à tout ce qui est hygiène, permis d'exploitation, etc., les formations obligatoires qui étaient assez faciles quand on a passé d'infirmière, l'hygiène, oui, ça devrait aller.
Oui, c'est pas faux.
Et puis après, non, je suis totalement autodidacte.
Ok.
Et on dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, je pense que c'est en cuisinant qu'on sait cuisiner.
D'accord.
Et là, il y a un exemple. Sur les bûches de Noël, ma nièce m'a envoyé un commentaire sur les photos que j'ai envoyées sur notre petit groupe de famille, oui, et qui disait, mais en fait, elles sont de plus en plus belles. Oui, forcément.
C'est comme tout, ouais. Plus on fait et mieux on le fait.
C'est
en fait.
Ça. Et puis, plus on s'organise. Tu m'aurais dit, il y a quelques, même autant de la cancanette, tu m'aurais dit, demain, tu sors 130 repas dans ta soirée. Je dis, c'est ça, c'est salut. Et en fait, non, ça se fait, ça s'organise, ça s'anticipe. Et puis, on trouve des astuces pour que les plats plaisent.
Oui, bien sûr.
Voilà. Et puis, il y avait une fibre, en fait, déjà de base. La cancanette, c'était beaucoup tarte, cake, salade, gratin. Moi, j'adore jouer avec les épices qui ne piquent pas.
D'accord.
Épices, voilà. C'est toujours un souci de dosage. C'est comme le sucré salé qui porte très mal son nom, parce que pour moi, c'est du salé sucré.
Oui.
Et les gens ont tendance à mettre trop de sucre. Donc, les gens n'aiment pas le sucré salé parce que c'est trop sucré.
C'est vrai, moi, la première.
Voilà. Alors que le meilleur exemple, c'est mon papa qui, quand il venait manger, à la cancanette. Au début, c'était pour me faire plaisir.
Oui.
Et puis après, il a goûté. Mais c'est super bon. Il n'aime pas le sucré salé depuis 60 ans, quoi.
D'accord.
Et maintenant, il ne se pose plus de questions, en fait. Il mange parce que c'est vraiment toute une question de dosage. Et c'est beaucoup le retour que j'ai de mes clients. C'est que je dose bien.
D'accord.
Je n'ai pas de don artistique, mais j'ai le don du dosage.
Écoute, c'est important pour ce que tu fais aujourd'hui.
Voilà. Et ça, c'est effectivement, même pour le sucre, etc. C'est... Voilà. Voilà.
Très bien. Donc, du coup, tu as ce restaurant. Est-ce que tu lances le projet seul? Est-ce que tu as des associés, pardon? J'imagine qu'après, derrière, ta famille t'a peut-être aidé au moment des travaux ou autre avant le lancement du projet. Raconte-nous.
Donc oui, je me suis associée avec ma meilleure amie du moment.
D'accord.
Ça faisait 15 ans. On avait déjà travaillé ensemble à la HAD.
Okay.
Elle était en cours de rupture conventionnelle sur un autre métier où elle ne se plaisait pas du tout. Mm-hmm. Donc, elle me dit « Ok, ok ». Donc, on s'est lancé. Donc, avant tout ça, donc business plan, c'est bien, mais donc il fallait trouver des banques, il a fallu trouver un local. Donc, on avait trouvé un local, c'était une ancienne animalerie, donc il n'y avait rien.
D'accord.
C'était deux plateaux vides.
Ah oui, ouais.
Donc, il a fallu faire les plans, il a fallu faire les dépôts en mairie, il a fallu trouver les entreprises pour nous aider. Et puis, quand on a vu les devis, on a fait... Donc, pour le coup, je me suis proposée auprès des entreprises d'être leur petite main.
D'accord.
Et donc j'ai appris plein de choses aussi. J'ai fait de l'électricité, j'ai fait de la plomberie, j'ai fait tout plein de choses, mais qui m'a permis de faire baisser les devis.
D'accord, oui, ok.
On a eu 5 mois de travaux. Mon mari nous a aidé aussi, m'a aidé aussi à faire tout l'aménagement ensuite, parce que eux avaient fait l'électricité, le sol, la peinture, etc. Mais après, il y avait tout l'aménagement à faire.
Bien sûr, oui.
Donc là-dessus, il nous a aidé. Et juste un détail, avant de monter le projet, oui, il faut ta famille adhère. Tu peux pas sinon.
Oui, ouais, ouais, ça, on en parle aussi dans quelques épisodes du podcast. Quand on a un projet, c'est vrai que c'est bien d'y croire soi, mais si derrière la famille, les proches, les plus proches n'y croient pas, dur ouais. Dur quoi.
Et donc c'était ouais, c'est très très important. Donc mon mari m'a suivi tout de suite. Oh, ma fille, pas de souci, c'est de la plus belle école.
D'accord.
Jour, la maîtresse, ouais, jour la maîtresse me dit oh, Margot nous a dit. Margot vous a dit quoi? Et oui, vous changez de métier. Mais alors, vu le ton grave de la maîtresse, je me dis mais Margot elle avait 3 ans.
Tu t'attendais à quelque
qu'est-ce
chose?
Qu'est-ce qu'elle aura dit?
Oui, puis les petits, ils racontent beaucoup de choses.
Donc elle avait déjà fait sa pub et tout. Enfin, c'était assez drôle. Okay. Et puis il fallait convaincre mon papa par contre,
oui.
qui était indépendant quand ils étaient jeunes avec ma maman, et oui. Ils ont coulé parce qu'ils avaient un magasin de jouets. Et c'était au début de l'ouverture des centres commerciaux, etc. Donc voilà, c'était la conjoncture a fait que.
Oui.
Et beaucoup étaient très 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 inquiets que, alors déjà quitter le métier d'infirmière, faut raconter pas la première crise cardiaque. Quand je lui dis que je veux quitter la SNCF pour créer ma boîte, je pense qu'il en a fait une deuxième. Donc il a fallu beaucoup le rassurer. Et puis des connaissances qui ont déjà des entreprises, etc. Il y en a une qui m'a demandé de voir mon projet.
Oui.
J'ai montré, elle est revenue, elle m'a posé sur la table, elle m'a dit vas-y fonce.
Bon.
Mon papa était là, ça l'a rassuré.
Ouais, d'accord.
Et voilà. Et depuis, mon papa est le premier fan.
Bah oui, j'imagine. Voilà. Ok, donc la cancanette ouvre. Comment ça se passe? Est-ce que c'est bien reçu par les clients? Est-ce que ça fonctionne bien? Dis-nous.
Ouais, ça se passe super bien. L'accueil juste magique. Alors effectivement, le premier jour, totalement dans le jus. Mon mari avait voulu nous aider, donc il y avait donc Anne, mon associée de l'époque, qui prenait les commandes, mais lui aussi. Donc moi, j'étais en cuisine, j'avais tout qui arrivait en même temps. J'ai dit, on se calme, les gars, d'accord. Il y en a un qui prend les commandes, l'autre qui amène les boissons, mais moi, j'ai que deux mains, hein. Vous en avez quatre. Donc voilà, il fallait se roder un petit peu, mais oui, on était complet dès le premier jour, donc ouais, c'était super chouette. Super. Donc on a ouvert le cooking dîner que 10 jours après, parce qu'il fallait quand même se caler un petit peu.
Oui.
Le cooking dîner, faut être honnête, marchait assez peu sur la période du midi.
D'accord.
Mais marchait plus en journée, en fait. Donc, les gens venaient, par exemple, ceux qui étaient en horaire décalé, donc ça me parlait aussi pour mes précédents métiers, venaient cuisiner l'après-midi, genre avant d'aller récupérer les enfants à l'école ou en amoureux, parents-enfants. Voilà.
Oui, donc, d'accord. Oui, parce qu'en fait, il faut rappeler que la cancanette, donc, tu avais ce concept-là, mais au-delà du concept, on pouvait venir manger tout simplement, prendre une pause là-bas.
Et donc, c'était plus, on va dire, alors c'était restaurant le midi, mais c'était salon de thé, c'est-à-dire que tu parlais des horaires tout à l'heure, on était ouvert de 9h30 à 18h30.
Ah oui, d'accord.
Donc déjà, voilà, le soir, on était chez nous.
Oui, ok.
C'était, et pour, dans tout le montage du projet, c'était prévu et organisé comme ça, c'est-à-dire que il fallait aussi qu'on puisse avoir notre vie. Et le quartier, donc c'était rue Gambetta, c'était pas un quartier très vivant, c'était pas Place Plume ou quartier Colbert, donc voilà, ça s'y prêtait pas et ça tombait très bien.
Ok, ouais, d'accord. Okay.
Voilà. Et donc oui, ça marche bien. Après, bon, j'ai les déboires de l'association ont fait que mon associé m'a dit au bout de 8 jours que ça ne lui plaisait pas.
D'accord, mince.
Voilà, c'était un petit peu... Ouais, c'était
perturbant, ben oui.
Grosse pilule à avaler.
J'imagine, au bout de 8 jours, oui, c'est sûr.
Donc on s'est dit, mais moi, je suis quelqu'un de très optimiste, donc je me suis dit, non, mais c'est le temps de se mettre dans le bain. Bon, le bain n'a jamais coulé, on va dire.
D'accord.
Donc voilà, ça c'était très très compliqué. Mais par contre, oui, la cancanette en elle-même, je voulais créer un lieu de vie. Et je pense que ce pari-là, je l'ai rempli parce que les gens venaient pour s'y poser. Les commentaires de l'époque sur les réseaux ou sur Google, c'était on y est comme chez nous, quoi.
Oui, donc effectivement, pari réussi. Donc tu te retrouves seule à tenir la cancanette, si je comprends bien. Tu nous disais tout à l'heure que c'était aux alentours de 2019. Donc, je pense que les gens vont comprendre un petit peu où on va en venir si on avance un peu dans le temps. Il se passe ce qui se passe avec le confinement, avec le Covid. À ce moment-là, comment tu prends les choses? Parce que du coup, la cancanette, elle est quand même au tout début.
Oui. Donc oui, donc j'ai recherché une nouvelle associée avec laquelle on a signé la veille du confinement.
D'accord.
Donc, on essaie de le prendre positivement. Pour le coup, quelqu'un qui arrive, qui était motivé, donc on communique sur les réseaux sociaux, on fait un peu de livraison.
Oui.
Après, il faut admettre que l'État nous a aidés, donc on gardait la tête hors de l'eau.
Heureusement.
Oui. Alors, premiers mois, l'aide de 1500 euros, on ne va pas en parler. Hein.
Oui.
Après, beaucoup, l'aide a été plus importante. Donc, mais vu qu'on n'avait pas beaucoup de... Enfin, j'avais que...
De rétroactivité. Ouais. Bah ouais, ça faisait
en gros,
pas...
j'avais 8 mois d'ouverture. Donc le calcul...
C'était sur ces 8 mois-là.
C'est ça. Et non, le CA moyen était calculé sur 12 mois, alors que j'avais travaillé que 8 mois.
Ah oui,
donc,
d'accord.
Donc ça lisse. Enfin bref,
on ouais, va pas rentrer là-dedans. Donc tu n'avais pas... Oui, ouais. Je comprends.
Donc bon, mais voilà. Et puis donc on a rouvert en juin et... Et là, de nouveau, ma nouvelle associée me dit « Non, c'est trop fatigant. »
C'est pas possible. Alors vraiment, on te mettait des bâtons dans les roues. Je pense que c'était pour te tester. Hein.
Je pense. Non, mais c'était un mal pour un bien, au final. Vous allez voir, tout ça finit bien.
On trouve le positif partout, t'as raison.
C'est le film à suspense. Donc voilà, ça lui convenait pas.
Elle était de la restauration, à la base.
Non, son amie l'était. Donc, pour coup, j'étais assez positive. Je me dis « Bon, bah voilà. »
Elle sait ce que
voilà.
C'est, ouais.
Peut-être un peu voilà, des petits soucis de santé qui ont fait que voilà, elle ne se sentait pas de continuer. Donc, d'échange en échange, je lui ai donc racheté ses parts et j'ai décidé de gérer toute seule.
Ok, bon, alors de nouveau, Candice voilà. Se retrouve toute seule.
Et nous avons reconfiné la semaine suivante.
Allez, voilà, quelle belle nouvelle.
Voilà. Au début, on se dit, on va attendre, voir comment ça se passe.
Ah oui, on ne savait pas trop.
Voilà. Puis ça s'éternise un petit peu et puis après on réfléchit quand même à différentes solutions. Donc après les années de management que j'avais pu faire, je ne voulais pas faire de management. C'est pour ça que je voulais quelqu'un d'associé et pas de salarié.
Oui,
parce que tout le monde disait prends une salariée. Non.
Oui, tu voulais pas avoir ce rapport-là.
Ouais, c'est ça. Donc et puis un jour donc ça, je réfléchissais, je pleurais beaucoup. Je me dis non mais toute seule je peux pas, ça faisait 130 mètres carrés, c'était sur deux niveaux.
Et ouais, c'est pas rien.
Donc toujours une petite fille qui grandit, mais voilà, un mari en déplacement, enfin bref. Donc et puis je me suis dit un food truck.
Allez.
Donc mais ça je garde ça pour moi au début.
D'accord.
Parce que je réfléchis à l'organisation. Moi j'aime bien en fait proposer quelque chose comme pour la comptable.
Une fois que c'est bien ficelé.
C'est ça. C'est-à-dire que voilà, il y a ça, ça et ça, on fait comme ça.
Ah oui, à l'inverse de moi où quand j'ai des idées, j'aime bien balancer mes idées. Mais c'est bien d'être organisée comme toi.
Mais en fait, c'est que comme ça quand c'est calé,
on peut pas te dire non, on peut pas dire non, ça va pas marcher. C'est bien ficelé son projet, bah forcément.
Exactement.
Je prends l'astuce, tu vois.
Donc, je réfléchis. Et puis, nous avions une pièce chez nous qu'on appelait buanderie seulement parce qu'il y avait la machine à laver. Le reste, c'était en gros un truc qu'on ne savait pas où on mettait. On le mettait.
La pièce à bazar comme on a tous chez nous.
Exactement. La chance d'avoir cette pièce à bazar. Mais gros bazar quand même.
D'accord.
Et donc, je prends mes petites mesures, etc. Je sors de la pièce. Mon mari était là-bas et je lui dis, je vends.
D'accord.
Il dit, mais non, mais tu peux pas faire ça. Il dit, enfin voilà, tu t'éclates dans ce que tu fais, ça plaît à tes clients, il y a des super retours, là c'est que le confinement, enfin il essaye de... Non, mais détends-toi Seb, assis-toi. En fait, je vais vendre et ouvrir un food truck. D'accord. Il dit, c'est quoi ton papier là? Là, c'est les plans de notre buanderie pour faire mon labo.
Ah, ça rigolait pas. Oui. Qu'est-ce que tu veux qu'il dise à part, oui, effectivement, ok.
Et là, il fait, non, mais c'est pas possible, on vient de finir les travaux de la cancanette là. Ouais, là, on va faire les travaux dans le labo. Mais bon, je rappelle, donc plein confinement.
Oui.
Et la fille complètement tarée veut vendre son fonds de commerce. Et je mets en vente des tas de rebondissements, des promesses de vente signées qui sont annulées, des gens qui me disent oui, puis après non, enfin... donc bon, ne pas perdre espoir.
C'est bien de le dire. Hein.
Surtout ne pas perdre espoir. Et puis, donc j'ai avancé, je regardais quand même les food trucks et puis je m'étais dit, de toute façon, un jour, je le vendrai.
Bien sûr, donc, mais oui, on ne va pas rester indéfiniment dans cette période horrible.
Donc j'ai profité du confinement pour faire le labo sur mes deniers personnels.
Ok.
Et donc cette pièce bazar, c'était quand même du béton au sol et des parpaings au mur. Hein,
oui, il y
avait tout à faire. Donc, j'ai profité de ce confinement et donc j'ai repris les petits outils. Nous avons refait connaissance et plein de choses.
T'étais déjà un petit peu à l'aise avec ça puisque t'avais donné la main à la pâte.
À l'aise, c'est pas vraiment le mot.
D'accord.
Mais je les avais apprivoisés, on va dire.
Ok.
Et donc, mon mari m'aidait comme il pouvait sur son temps libre. J'ai fait le labo, je regardais les camions sur le bon coin et puis je les voyais partir. Non, ce ne sera pas celui-là.
Oui, parce que c'est quand même si tu prends un camion d'occasion, ça reste un investissement.
Oui. Ouais. Et je ne pouvais pas l'acheter avec la cancanette parce que déjà, j'ai tous les investissements de travaux, etc.
Mais
donc,
oui,
il n'y avait pas les moyens sur la cancanette. Et deux, si je l'avais acheté avec la cancanette, ça voulait dire que quand je vendais mon fonds de commerce, je vendais mon camion.
Eh oui, d'accord.
Donc, il fallait attendre. Voilà, c'est ça, le banon. Et puis donc, ceux qui me suivent depuis le début savent que j'ai un rapport assez particulier avec les chats, c'est-à-dire que j'ai peur des chats.
D'accord.
Mais sur mon site internet, j'avais mis que c'était mon animal totem, puisque j'ai eu plusieurs vies professionnelles, et donc on parle souvent de plusieurs vies des chats, etc.
Ah ouais, d'accord.
Et donc là, des gens me contactent pour ouvrir un bar à chats. Donc, dans mon entourage, c'est juste mort de rire. Mais oui, Candice, d'accord, hein, bar à chat, t'as raison, machin. Et donc, c'est bien eux qui ont acheté mon fonds de commerce.
Ah oui, d'accord.
Et donc, voilà, c'est la petite anecdote.
C'est dingue.
Que... Ouais,
non, mais c'est fou. Ça. Alors que tu détestes les chats, ils vont faire un bar à chat, ouais, à la place de ça. La cancanette.
Pareil, il a beaucoup de rebondissements, voilà, les banques, etc. Enfin, bah, je vous apprends rien ouais. là-dessus. Et puis bah, après, voilà, donc, dès que ça a été à peu près bien engagé, je suis allée chercher Honoré. C'est le nom de mon camion.
D'accord, très bien.
Il y a aussi une histoire, mais on ne va peut-être pas tout raconter.
Oui.
Donc, je suis allée le chercher. Et la surprise, quand je suis allée le chercher, c'est que en fait, le plancher était pourri.
D'accord. Alors que tu t'en doutais pas du tout.
Non. Donc, bon, j'ai négocié beaucoup avec la dame. Elle m'a dit, mais je ne m'en étais pas aperçue. Bref, oui ou non, peu importe. Le résultat était là. Donc, eh ben, il a fallu se remettre dans les travaux. C'est-à-dire bah, démonter le camion entièrement et défoncer le plancher. Ça a valu quelques temps de zénith. Refaire le camion en entier. Et voilà.
Ok, bah, il en fallait du courage pour justement ne pas se décourager avec tous ces bâtons dans les roues dont on parlait tout à l'heure.
Et de l'huile de coude.
Et de l'huile de coude, ouais. Donc, tu fais l'acquisition d'un food truck, d'un camion, donc d'occasion, mais qui était déjà aménagé en tant que food truck. Hein.
Oui, c'est bien ouais, précisé, il était aménagé, mais donc il y a toute une partie qu'il fallait qu'on casse et qu'on refasse.
Oui, oui, oui bien sûr.
Mais oui, oui, de base, il était déjà homologué, etc. Donc, c'était...
Ok, donc il s'appelle Honoré.
Oui.
Alors, ton concept, explique-nous un petit peu avec Honoré ce que tu fais, où tu vas au tout départ, aux prémices du projet, quand vraiment tu te lances.
Alors, au tout début, en fait, la directrice du Vips à Chambray, oui. le magasin de vêtements, en fait, m'a toujours soutenue. C'est-à-dire que même avant d'ouvrir la cancanette quand j'étais en travaux, elle m'avait demandé de faire l'inauguration de son magasin.
D'accord.
Et là, quand elle a su que je passais en camion, elle m'a dit, bah, si tu veux, je t'accueille sur mon magasin.
Sympa.
Ouais, vraiment, je la remercie régulièrement.
Oui, elle t'a permis de débuter, de croire en toi aussi.
Mais cet emplacement, il ne marchait pas.
D'accord.
Très clairement, un peu trop isolé, ceux de Casto venaient pas. Enfin voilà, c'était... voilà, ça ne fonctionnait pas. Donc okay. À un moment, il fallait se faire une raison.
D'accord.
Et le hasard a fait que des personnes travaillant à Leroy Merlin sont venues manger sur le camion.
Oui.
Et m'ont dit, mais non, mais il faut que vous veniez. C'est juste, voilà, c'est juste que vous êtes trop loin de nous, mais il faut venir. Donc, c'est comme ça que j'ai atterri sur le parking de Leroy Merlin.
OK.
Où j'y suis maintenant tous les mardis. Après, les autres emplacements, j'ai... un jour, on allait à Décathlon chercher je ne sais pas quoi. Je demande, justement, on a une place...
Oui, voilà. Finalement, ça s'est fait comme ça, Exactement. En fait, tes premiers emplacements.
Ouais.
Et puis, ce qui est bien, c'est que tu peux te déplacer. Donc, tu vas un peu aller chercher tes clients, ouais. te faire connaître comme ça, toi, puisque tu es mobile.
Ouais.
OK.
Et puis, Jardiland, pareil, j'adore aller traîner à Jardiland. J'ai acheté des œillets
de poète qui sont sur la table, juste à côté de nous.
Donc, voilà, je me suis présentée au directeur qui, au début, était un peu récalcitrant.
Ouais.
Et qui m'a dit, oui, essayez, faites comme vous voulez. Et puis, au final, c'est, je pense, un des plus grands fans de la cancanette. Il a son petit logo sur son téléphone, là, comme moi.
C'est vrai, ouais, d'accord. Non,
et donc, voilà, le réseau s'est construit comme ça, avec une clientèle. Ils sont juste adorables, en fait. J'ai mes petits habitués, il y a les nouveaux. Après, il y a tous ceux qui viennent des zones d'à côté.
Oui, c'est ce que tu es là.
Ouais, et après, la communication est très importante sur le site ou sur les réseaux sociaux pour bien dire où je suis, quand je suis,
etc. Et oui, c'est ça. Il ne faut pas que les gens te loupent.
Ouais, et il faut être hyper vigilant. Il y a une ou deux fois un bug sur le site internet. Tout de suite, je le mettais sur les réseaux pour essayer de communiquer. Ceux que j'avais par téléphone, je les communiquais aussi.
Oui, c'est important quand on est mobile. Pour le coup, là, les gens, ils ne savent pas que c'est telle adresse et qu'à chaque moment, ils te retrouvent à telle adresse.
C'est ça. Okay. Donc, il y a cette régularité-là. Et pour répondre à ta question quand même,
oui.
Ce que je fais, c'est déjà du fait maison.
Oui.
Avec des produits de saison.
Mm-hmm.
Donc déjà, ça plaît. De base, je faisais tout ce qui était tarte, croque, salade, gratin.
Oui.
Et puis, on m'a demandé des burgers.
D'accord.
Alors, au début, j'étais, je ne vais pas faire des burgers. Bon, déjà, pas de frites. Ça, c'était pour moi, c'était un, parce que j'aime pas sentir le graillou.
Ouais.
Deux, parce qu'au niveau des normes, etc., c'est aussi assez pénible.
Ah ouais, d'accord.
Et trois, pour une ancienne infirmière de réa cardiaque, proposer des burgers frites, ça me gêne un peu sur l'équilibre alimentaire, etc.
Ok, je comprends.
Et vu que mon concept, c'est quand même le food truck du bien manger gourmand.
Oui.
J'ai dit, pourquoi pas des burgers faits maison, donc le pain, les mélanges de viande, etc. C'est moi qui fais tout. Et puis, toujours cette histoire de sucré salé, d'épices, de pommes dans un steak. Alors, les gens, ils me regardent, t'as vraiment mis des pommes? Oui, j'ai vraiment mis des pommes. Genre, c'est super moelleux. Oui, c'est ça, en fait, le petit moelleux.
D'accord. Ouais, mais c'est bien de faire découvrir des associations aux gens.
Et puis, tous les desserts aussi, sont faits maison. Après, c'est des formules. Il y a une une soupe, donc froide ou chaude en fonction de la saison.
D'accord.
Trois plats et 4 ou 5 desserts.
Ok.
Qui changent effectivement toutes les semaines. Au niveau des boissons, je travaille aussi qu'avec des gens qui ont les mêmes valeurs que moi. Donc,
en local
pas forcément, parce que... Il y a des produits français assez sympas un peu
oui,
partout.
Oui, local ou français, c'est
voilà.
déjà très bien.
Déjà, c'est français toujours.
Oui, oui.
Mais je travaille avec des cidres de Normandie.
Oui, je vois, j'adore. Moi, rien que le packaging me donne envie.
Oui, ah, ils ont un jus de pomme pétillant, mais je recommande d'ailleurs. C'est pas possible. Tous mes jus de fruits sont du 100% fruits. Après, je travaille, il y a des infusions pétillantes. Donc, c'est pareil, voilà, des choses un petit peu originales, avec des associations un petit peu originales, puisque là, j'ai hibiscus gingembre, hibiscus basilic.
Mmh. Ah, ouais, d'accord.
Voilà, donc qui correspondent assez bien en fait à ce que je fais. Puis je travaille avec Palais d'été et Max Café, donc
ouais, okay.
voilà, des valeurs sûres sur les boissons chaudes.
Ok,
voilà. Et
très
puis
bien.
Je fais aussi, pardon, tout ce qui est privatisation. Donc là par contre, c'est que du sur-mesure.
Oui, pour des événements où tu te déplaces chez les gens.
Oui,
d'accord.
En fait, donc sur les privés, donc, je me déplace chez les gens, anniversaire, mariage, lendemain de mariage, départ en retraite, enfin tout ce que vous avez envie de fêter sur le principe.
Ouais, okay. Et en entreprise aussi peut-être.
Et voilà, et en entreprise, et après sur tout ce qui est... là, par exemple, je vais faire la fête de la musique pour la préfecture, je vais faire la guinguette de Ballon-Miré, je vais faire
super.
La scénographie de Semblancé. Enfin, voilà, après, c'est assez diversifié. Et par contre, dès que c'est une privatisation... En fait, j'ai pas de menu type. C'est-à-dire que les gens m'appellent, vous pouvez m'envoyer votre carte, mais j'en ai pas de carte.
Oui.
Moi, ce que vous aimez, et c'est que du sur-mesure. Et
bah,
ça,
c'est chouette, ça.
Voilà,
bah,
et ça m'étonne. Énormément.
Ouais, c'est ce que les gens aiment et veulent. En combien de temps tu dirais que ça a vraiment pris, en fait? Tu nous disais que dès le départ, sur les emplacements, une fois que tu es passé à d'autres emplacements tels que celui de Leroy Merlin ou Jardiland, ça prenait. Mais véritablement, en combien de temps tu t'es dit « Allez, là, ça marche, c'est bon, quoi, on va se développer, avoir d'autant plus d'emplacements, faire les entreprises » ou est-ce que dès le départ, tu as fait tout ça?
C'est assez un truc de dingue, en fait.
Ouais.
À part le mois de juillet où c'était mou, puisque j'étais sur le VIP, c'est que c'était assez moyen.
Oui.
Il y a eu un article dans InfoTour.
D'accord.
Dont je n'étais pas au courant, en fait. Et les gens m'ont appelé en me disant « Ah, oh, super l'article, etc. » Mais de quel article vous parlez? Et ça, ça a débloqué plein de choses. La guinguette de Ballon-Miré m'a appelé. Et
okay.
Donc là, j'ai fait le mois d'août, j'ai fait les guinguettes là-bas.
Super, en plus, sympa à cette période de l'année.
C'était génial. Et la première fois, à 9h, parce que je ne suis pas de Marseille, mais je crois que c'était 8h30, je n'avais plus rien à manger.
Ah ouais.
C'était une catastrophe. Non, c'était un grand succès, mais
oui,
c'était...
Oui.
J'étais waouh. Et donc, la semaine de la rentrée, un peu mou. Mais
okay.
Les gens étaient dans autre chose, etc. Je commençais tout juste sur mes emplacements, donc les gens ne savaient pas encore où me trouver. À partir de mi-octobre, les emplacements, j'avais déjà les habitués.
Ok, pour un lancement, rappelle-nous, au mois
début
de
juillet.
Début juillet, ouais, c'est fou. Donc ça a tout de suite pris.
Ouais.
Quel plaisir de se rendre compte
c'est
que
ça.
Son concept marche.
Sachant que j'avais fermé au mois d'août pour partir en vacances.
Ah oui, toi
oui,
tu fermes
oui,
comme
oui.
ça au tout début. Bon, écoute, t'avais le luxe de pouvoir le faire, hein, t'étais à ton
c'est
compte.
C'est ça, oui. Et non, et puis alors, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire quand même. J'ai des amis, donc il y a leur petite fille, il dit à sa maman, il dit, oh, Candy, c'est quand même trop cool, elle prend des vacances quand elle veut. Et donc mon ami lui répond, tu sais quand même que quand elle travaille pas, il n'y a pas d'argent qui rentre. C'est pas comme quand nous, on part en vacances, qu'on touche notre salaire. Ah oui, c'est moins drôle. Donc tu sais que si elle part en vacances, c'est qu'elle a anticipé et prévu les choses. Ah ouais, non, c'est moins drôle que prévu, en fait. Donc oui, là, effectivement, la vente du fonds de commerce, etc., avait fait que j'avais fermé 15 jours.
Oui, je plaisante, hein, bien
non,
sûr.
Non, mais et j'explique aussi, c'est que, et d'autant plus aujourd'hui avec le recul, oui, j'ai une famille, en fait. Et à l'origine de quand j'ai quitté la SNCF pour créer la Cancanette, la règle numéro un qu'on s'était fixée, c'est on ne fait pas exploser notre famille.
Oui. Ben oui, parce que dans des projets comme ça...
Et pourtant, beaucoup, on a, ça aurait pu, hein, parce qu'avec tout ce qui s'est passé, tout ce qu'il y avait à gérer, etc. Mais voilà, pour qu'aujourd'hui, l'équilibre est quand même important. Et il y a les privatisations, etc. Mais il y a un moment, en fait, soit je suis complet, soit en fait, non, je ne travaillerai pas ce jour-là parce que cette journée-là, je vais la passer avec ma famille. Et
mais
puis,
c'est bien ça, parce que c'est pas parce qu'on est à notre compte qu'il faut qu'on travaille 7 jours sur 7. Enfin, il faut aussi s'écouter et savoir se donner des moments où on fait pause, en fait, et
c'est
on est
ça.
Avec les gens qu'on aime pour après de nouveau reprendre avec plein d'énergie.
Ouais.
Non, mais t'as raison de le dire.
Et je voulais pas que ce soit la course à l'échalote. C'est-à-dire que, je pourrais bosser 7 jours sur 7, jour et nuit, je pense, en ce moment.
Oui.
Mais non, en fait, voilà, c'est important. Je gagne aujourd'hui moins que ce que je gagnais à l'SNCF, très clairement.
Oui.
Mais ce que je disais à mon mari, je dis, je paye ma part de la maison, je te demande pas d'argent.
Oui.
Je suis totalement autonome.
Oui, oui.
Ça nous empêche pas de partir un petit peu en vacances. Alors, on part pas à l'autre bout du monde, hein, mais on s'organise pour partir en vacances. Je peux quand même acheter des âneries à ma fille, que soit alors, les livres ne sont pas des âneries, mais voilà, les gagas de livres. Donc bah oui, dès qu'on va quelque part, elle repart avec un livre.
Ouais, mais c'est bien ouais. Ce que tu dis, parce qu'en plus on a chacun la notion de bien gagner sa vie et ça dépend des attentes que l'on a.
C'est ça.
Donc toi, si aujourd'hui t'es épanouie avec le salaire que tu te verses via ton projet, que ça marche bien, que enfin bah voilà, t'as tout gagné.
Et donc, ce ne sera pas la course à l'échalote. Ce n'est pas la course à l'échalote. Là, j'ai plein de trucs qui arrivent, mais derrière, oui, je fermerai 3 semaines au mois d'août. Mm-hmm. Parce que comme tu dis, oui, je peux me le permettre.
Ouais, mais non, mais...
Et c'est important, en fait. Je ne vais pas prendre vacances en septembre, alors que ma fille a des vacances juillet-août et mon mari aussi. Enfin, donc...
C'est bien de pouvoir organiser son temps comme tu l'entends. Chouette. Donc, du coup, maintenant, tu as des fidèles clients. Tu en as aussi de nouveaux, parce que j'imagine qu'il y en a plein et... Peut-être qu'avec ces podcasts, ils te connaîtront pour ceux qui nous écoutent de Tours et qui chercheront un petit peu les emplacements où tu es. Qu'est-ce qui te plaît le plus ? Alors, tu nous as un petit peu parlé quand même des aspects que tu aimais bien, mais qu'est-ce qui te plaît le plus et qui te plaît le moins dans ce food truck-là et dans ton quotidien ?
Ce qui me plaît le plus, c'est la diversité.
Oui.
Je dirais que tout ce qui s'est passé avant, c'était un mal pour un bien. Aujourd'hui, j'ai les emplacements, donc avec mes petits habitués qui me font mourir de rire.
Oui.
Donc maintenant, je connais les petites habitudes de chacun, qui n'aime pas le fromage, qui n'aime pas ci, qui n'aime pas ça. Donc
ouais,
déjà, c'est super apprécié des gens. Et puis moi, je m'amuse de leur faire goûter des... Tiens, je t'ai mis un tout petit peu de ça, tu goûteras. Enfin voilà. la diversité, parce que donc, les emplacements, les privatisations, les entreprises, les particuliers, sur les privatisations... Je pense que ça doit être un peu comme pour toi. T'arrives, en fait, t'es le messie, quoi. Non, je suis juste le camion qui fait à manger.
Ouais, non, mais c'est vrai.
C'est, les gens sont là, c'est trop bien, c'est trop beau, c'est trop chouette.
On se rend compte qu'on apporte vraiment quelque chose, ouais. Chacune à notre manière, hein, parce qu'on ne fait pas du tout le même métier, mais chacune à notre manière, on apporte quelque chose de positif, en fait.
Ouais.
Les gens sont contents et c'est des moments festifs, joyeux, ouais. Où on partage.
Et même sur les entreprises, là, encore la semaine dernière, où j'ai aussi, le midi, j'étais avec des ados. Les ados, ils étaient juste gaga, quoi. C'était... Donc, ouais, tout ça, ça nourrit énormément.
Mm.
J'aime cuisiner aussi. En fait, des fois, on me dit, mais pourquoi tu fais pas le même menu, ne serait-ce que 2 semaines de suite ? Je dis, ça va pas, je vais m'ennuyer.
Bah ouais, ouais.
Et puis, bon, les gens aussi apprécient que ça change. Le côté chouette aussi, c'est l'organisation familiale dont on vient de parler. Hein. J'emmène ma fille le matin à l'école, je la vais la rechercher le soir.
Ouais.
Et les week-ends, je les organise en fonction du planning de mon mari, etc. Côté négatif, faire les courses.
D'accord.
Voilà.
Pourtant, il faut, mais oui, ça fait partie des choses moins fun.
Faire le ménage non plus, c'est pas le gros kiff, mais okay. C'est juste obligatoire. Hein.
Oui.
Et puis, quand il fait moins 4 dehors.
Parce que le désavantage d'être mobile, c'est qu'on est un petit peu dehors quand même, et quand il fait pas beau.
Ouais. Ouais. Donc le moins 4 et le 40 degrés, ouais, ça c'est moins cool. Mais, mais on fait avec, et puis ça se passe bien, on met des chaussettes et des semelles en moumoute, on travaille en débardeur et en short.
Quand on aime ce qu'on fait, les côtés négatifs, on le sait qu'on aime moins faire ces choses-là, mais ça passe parce qu'on s'épanouit tellement dans ce qu'on fait.
En fait, ça fait partie du jeu, quoi.
Ouais.
C'est... Ouais, quand il y en a partout et que la vaisselle, le ménage, c'est parti pour 20 minutes. Ouais, je le sais. Enfin, et c'est pas pour autant que je vais râler ou quoi que ce soit.
Bah,
quoi.
Puis s'il y avait pas ces tâches-là, t'apprécierais pas les autres que tu aimes plus.
Je suis pas sûre.
C'est vrai.
Mais voilà. C'est...
Alors, est-ce que tu travailles seule ?
Oui.
Ok. Est-ce que c'est une volonté de ta part ? Parce que tu nous expliques quand même que tu as tes emplacements la semaine, tu peux avoir des privatisations semaine ou week-end, j'imagine peut-être. On se dit, mais non, elle a des journées, pour autant, elle nous dit qu'elle a un petit peu de temps quand même. Comment t'organises ton temps ? Pourquoi ? Est-ce que tu travailles seule, c'est une volonté ? Est-ce qu'à l'avenir, tu as envie d'avoir quelqu'un ? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de cet état d'esprit que tu as ?
Donc oui, seule. Seule, l'association, c'est pas pour moi, a priori.
Bah oui.
J'ai bien compris que c'était pas pour moi. Hein. J'ai tendu la joue droite, j'ai tendu la joue gauche.
Bon,
maintenant,
tu auras
bon.
Essayé, en tout cas.
Voilà. Très clairement, on n'a pas tous le même sens de la valeur du travail.
Oui, ça c'est sûr.
C'est pas forcément évident de trouver quelqu'un qui ait les mêmes, qui ait les mêmes envies, qui ait les mêmes envies d'avancer. Donc non, seule.
Okay.
Complètement seule. Après, je ne dis pas que à l'avenir, peut-être un apprenti, ou... parce que bah, y a toujours, j'aime transmettre. Alors, je transmets à ma fille, mais bon, c'est ma fille. Mm. Mais voilà, peut-être à l'avenir, alternance ou apprenti, mais non, pas de salarié, pas d'associé. Après, il y a deux personnes qui m'accompagnent dans leur domaine chacune. Hein, c'est ma comptable, Agnès oui. Pic. Qui depuis le début hein, pour le coup a cru au projet qui est toujours de très bons conseils qui me commande tous ses buffets de famille aussi, hein, faut être
d'accord.
Très clair.
Ouais, ouais.
Et puis ma graphiste Marie-Roy Pressac qui pareil dès l'origine m'a fait mon premier logo, m'a fait le site, qui suit depuis le début, qui est au taquet tout le temps.
Okay.
Voilà, donc ça voilà, chacune dans leur partie parce que il y a des choses que je pourrais faire hein, pour avancer que ce soit la compta soit le côté graphique. Mais non. Déjà, un, parce que je n'en ai pas le temps.
Oui.
Deux, parce que je n'en ai pas l'envie, parce qu'elles font ça très bien.
Oui, bah, puis c'est important quand on est à son compte de savoir déléguer sur les choses, un, qu'on ne sait pas faire, parce qu'on ne sait pas tout faire, et deux, sur les choses qu'on pourrait peut-être faire, mais dont on n'a pas le temps, et au moins ça va nous dégager du temps pour se concentrer sur le principal de notre activité.
Ouais. Donc, ouais. Ce serait trop chronophage. Déjà, le blog, là, je passais à une fois tous les 15 jours plutôt que toutes les semaines.
Oui.
Parce que bah, effectivement, ça prend du temps en fait d'écrire, etc.
Alors raconte-nous, tu as un blog sur ton site internet où tu parles de quoi en fait ? Quels sont les articles que tu postes ?
Des activités en fait de la semaine en fait, de ce qui s'est passé,
de ce qui va se passer. D'accord.
Pour coup, les menus, les plats complets, ceux qui arrivent, événements, voilà.
Ok, donc ça tu le fais du coup maintenant une fois par ?
Une fois tous les 15 jours.
Une fois tous les 15 jours, ouais. Ok, très bien. Donc, les perspectives de développement, j'aime bien poser la question de temps en temps, comment tu te vois dans 5 ans ? Tu nous expliquais qu'effectivement, peut-être avec un alternant, un ou une alternante, mais en tout cas que tu voulais continuer à travailler seule et que c'était ta volonté. Les perspectives de développement, quelles sont-elles ? Est-ce que tu te dis, voilà, là déjà comme ça, c'est bien, ça fait pas si longtemps, en fait, finalement, oui. Parce que voilà, c'était 2019, je crois, on disait tout à l'heure, et puis 2021, le lancement du food truck. Donc, voilà, je sais pas, comment tu te vois dans 5 ans ?
Honnêtement, au tout début, quand j'ai créé la Cancanette, dans mon business plan, etc., il y avait l'idée de franchise.
D'accord. Donc là, tu nous parles à l'époque du restaurant, ton premier projet dans la restauration.
Et donc ça, voilà, avec l'idée du concept, etc., c'était vraiment...
Et puis en plus, tu lançais vraiment un concept qui n'existait pas. Donc oui, c'était pertinent.
Aujourd'hui, il y a énormément de monde qui me disent « Mais si, mais Candice, il faut que tu prennes un deuxième camion, etc. Ouais. » etc. Aujourd'hui, alors dans 5 ans, je n'ai pas de boule de cristal, Émilie, sincèrement.
D'accord, mais tu vis au jour le jour peut-être plutôt.
Ouais, en fait, déjà vu le planning, tu ne peux pas vivre trop loin devant parce que sinon tu te noies. Mais aujourd'hui, en fait, j'ai un équilibre. Mon mari montrait l'autre jour, je ne sais pas du tout comment ça s'appelle, c'est un schéma en fait, et toi, tu es au milieu et il y a toutes des bulles qui s'imbriquent en fait, on va dire. Il faut que, je ne sais pas comment ça s'appelle. Et donc, il me montrait ce truc. Et lui, en ce moment, professionnellement, ça plein de choses, etc., qui font qu'il n'est pas au milieu de cette bulle. Et okay. Il me dit, toi, t'es où ?
Ah, j'y vais. Ça doit être l'igikai ou l'ikigai, je ne sais plus dans quel sens.
C'est ça.
C'est ça, oui.
C'est ce truc-là, en tout
cas.
Et je lui dis, moi, je suis en plein milieu. C'est-à-dire que tout est bien, quoi.
Ouais,
je touche
aligné,
de la peau de singe, je touche du bois, oui. Donc, j'y trouve mon compte aujourd'hui. Ouvrir un deuxième camion, ça voudrait dire quoi ? Ça voudrait dire mettre des gens dans mes camions parce que si c'est moi qui cuisine,
bien sûr.
Je ne vois plus mes clients. Ce qui est quand même la base de mon métier, c'est de voir les cuisiner, c'est bien. Mais par exemple, le confinement, ça ne m'a pas plu du tout. Juste de les livrer, ça me faisait suer, quoi.
Mais oui, je comprends, tu veux le partage. Tu nous parlais en tout début d'épisode que toi, c'était les autres aussi qui t'importaient. Donc, si tu n'es pas dans ton camion à échanger avec tes clients...
Exactement. Ouais. En fait, je ne me vois pas du tout chef d'entreprise avec 10 camions et dans mon bureau ou dans ma cuisine. Voilà, j'ai cuisiné, allez-y, quoi. Pour moi, aujourd'hui, c'est inconcevable.
Ouais, je comprends.
Après, on en reparlera peut-être effectivement dans
5 ans,
dans 10 ans.
Oui, les choses peuvent évoluer, mais...
Mais aujourd'hui, non, je m'éclate dans ce que je fais. J'ai le retour de mes clients qui reviennent toutes les semaines. « Oh, le truc de la semaine dernière, c'est trop bien. Le petit SMS que je reçois. » Enfin, non, voilà, aujourd'hui...
Mais c'est bien aussi parce que souvent, on parle beaucoup aujourd'hui dans les médias ou ailleurs d'entrepreneuriat. On voit beaucoup de start-up qui sont des gros, gros projets. Mais c'est bien aussi d'avoir, entre guillemets, c'est pas du tout péjoratif, son petit projet, d'être bien et tout roule. Et voilà, et on n'a pas forcément envie d'avoir 36 camions, des salariés. Enfin, voilà, je trouve que c'est aussi bien. Et puis, comme tu le disais, qui dit deuxième camion, là, pour le coup, dit fatalement salarié. Enfin, il faut quelqu'un dans le camion. Donc après, c'est toute une réorganisation à faire. Donc je comprends cette liberté que tu as d'être seul et puis de pouvoir avancer comme ça. J'ai l'habitude, à la fin des épisodes, de poser 3 petites questions. Avant ça, j'y pense là en même temps que je parle, est-ce que tu peux nous dire d'où vient le nom La Cancanette ? J'ai pas pensé à te le demander avant, mais ça me vient maintenant.
Donc, je m'appelle Candice.
Oui.
Ma famille, mes proches m'appellent Cancan.
D'accord.
Et ma première associée s'appelait Anne.
D'accord, on
et
comprend.
Et donc, la Cancanette.
Cancanette,
et donc, okay. Pour la petite histoire pour la Canca, c'est oui. Quand je suis passée en food truck, j'ai cherché un autre nom. Et donc, j'ai consulté tous mes habitués, etc. Qu'est-ce que vous pensez de ci? Qu'est-ce que vous pensez de ça?
Oui.
Et à l'unanimité, ils m'ont dit, mais Candice, depuis le début, on vient à la Canca, on vient pas à la Cancanette, dans notre façon oui, de oui. parler, etc. Donc, j'ai gardé, je les ai écoutés, j'ai gardé la Canca,
gardé les noms du...
qui ben était oui. effectivement mon diminutif à moi, au final.
Oui, oui.
Et puis, puis, au niveau com, etc., il faut être honnête, j'ai gagné du temps sur les réseaux
bien
sociaux,
sûr.
Ça m'a aidé de recommencer à zéro, quoi.
Ben, sinon, ouais, tu recommençais de zéro et c'était pas si simple. Et puis, c'est la continuité du projet. Si t'avais pas eu la Cancanette, t'aurais pas eu cette idée peut-être de food truck, donc c'est chouette. Bon, et ben, très bien, j'aime beaucoup l'anecdote là-dessus. Alors, donc, en fin d'épisode, comme je le disais tout à l'heure, j'ai l'habitude de poser trois questions. La première, c'est j'aimerais que tu nous parles d'une déconvenue, de quelque chose qui ne s'est pas passé comme prévu. Alors, de ce que tu nous as raconté, on a eu un petit peu quelques brides, mais ça peut être tout autre chose, je ne sais pas. Un moment de ta vie, lié ou pas à ce que tu nous as évoqué, où tu t'es dit, oh là là, mince, j'ai raté, j'ai pas réussi, et finalement, quand même, t'en as retiré du positif. Est-ce que tu as une idée qui te vient
oui.
comme ça?
Oui, je dirais bien
l'association. Que tu veux nous partager.
Ouais. Ouais, c'est... Ouais, j'ai raté ça. Je sais pas ce que j'ai raté, mais l'association. Alors, ce qui est un peu pénible entre guillemets, c'est qu'après coup, tout le monde te dit ah non, mais les associations, ça marche pas.
Oui.
Alors bon, déjà, je suis pas sûre que je les aurais écoutées, pour être très honnête,
ouais.
parce que je crois en l'humain, donc les personnes en face de moi, pour moi, je suis un bisounours, hein, donc voilà.
Ouais.
Bref. Mais non, ouais, j'ai raté ça. Mais ouais, c'est comme je disais, c'était un mal pour un bien. Mais par contre, ouais, je me suis pris une grande porte en pleine face quand même. Et je suis tombée de haut, je suis partie très...
Voilà. Bah oui, puis toi, deux fois de suite quand même. Ouais. C'est vraiment cool.
Mais voilà, je sais aujourd'hui que, a priori, c'est pas pour moi.
C'est ce que j'allais dire, en fait. Moi, je pars du principe où j'essaie de me dire que rien n'arrive par hasard. Mmh. Et du coup, si t'as eu ces expériences-là malheureuses d'association, bah, c'était peut-être pour te dire, en fait, Candice, t'es pas faite pour être associée,
ouais,
t'es faite pour bosser seule, et voilà.
Mais après, je le reconnais, je suis quelqu'un de leader, hein, donc
oui.
J'ai besoin d'avancer, j'ai besoin que les autres avancent aussi, j'avoue, hein, des fois, dans le côté, quand j'étais manager, il fallait que je tempère ce côté-là,
oui.
Parce que y a des gens qui n'ont pas aussi... pas envie d'avancer aussi vite que ce que toi t'as envie.
Ouais, je comprends donc, ça tout à fait. Je suis voilà. un peu pareil, ouais.
Donc le côté manager, en fait je le savais. Donc c'était mon métier, donc il fallait
bien
que
sûr.
Je me tempère. Mais là c'était ma boîte.
Ouais. Et puis là... c'était une associée, pas une salariée. Donc,
exactement. Et donc là non, je concevais pas de dire c'est moi avec mes petits bras et qui vais tout. Non, on va pas faire ça en fait.
Ouais.
Donc oui, je sais que je suis quelqu'un de leader. J'ai besoin d'avancer. J'ai besoin que la personne qui veut me suive.
Ouais.
C'est-à-dire que c'est pas moi qui... Attends, viens, je vais te
oui,
chercher.
Oui, qu'elle soit au même rythme
c'est
que
ça.
Toi, en fait.
Donc, j'ai tendance à le faire quand même, à aller chercher, mais c'est épuisant, en fait.
Bien
c'est...
sûr, bah oui.
Donc, au lieu de gagner du temps, c'est un chronophage pas possible. Donc, seul, c'est très bien.
Ok, très bien. Alors, ma deuxième question, j'aimerais savoir quelle est la personne qui t'inspire le plus, de qui tu as le plus appris.
Ma maman.
D'accord. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus?
Ouais, ma maman, c'est elle avec mon papa qui m'a transmis le coup du travail.
Ouais.
Pour l'anecdote, en pleine chimiothérapie, à 6 mois de son décès, elle était sur la foire du Mans à vendre des meubles, à faire des nocturnes, etc.
D'accord.
À 68 ans. Enfin,
tes parents avaient une entreprise ?
Non, elle travaillait sur les foires en tant que vendeuse
d'accord.
de meubles. Elle était vendeuse
ah oui,
extra.
Okay.
Donc, elle faisait pour différents patrons. Elle,
ah oui,
elle faisait les foires. Et donc, c'est ce goût du travail hein, qu'on a tous les trois avec mes frères.
Oui.
Cette force de caractère, ma maman, oui, à part la maladie, je l'ai jamais vu s'effondrer, quoi.
Oui.
Ou si, je l'ai vu, hein, parce que ça, c'était un être humain, ma maman.
Bien sûr.
Je l'ai vu pleurer, etc. Mais oui, bon, allez, on se relève, on va trouver des solutions.
Oui, de pas s'arrêter
ouais.
à justement un raté, un échec ou autre,
c'est
non,
ça.
Se relever, en apprendre.
Et voilà, mon seul regret dans ma vie d'aujourd'hui, c'est qu'elle soit pas là pour voir ça.
Ben oui, je comprends.
Et voilà, de savoir ce qu'elle en penserait.
Ouais, je pense, moi je me dis pour mes proches aussi qui ne sont plus là, que quelque part ils nous voient et qu'ils
oui,
sont fiers de
sûr.
Là où ils sont. Et puis qu'on le fait aussi pour ça. Et puis t'as encore ton papa, tu nous
oui.
disais, tes frères et sœurs. Donc je pense que ça contribue en fait à donner du sens à ce que tu fais. Et tu le fais aussi pour ça. Donc,
oui, bien
c'est
sûr.
Très chouette.
Bah oui, aujourd'hui, voilà, mon papa est très fier. mon frère aussi.
Et puis une maman, c'est toujours fier, ça suit toujours. Donc je suis persuadée qu'elle se dirait, non mais c'est pas possible. Elle était infirmière, après elle est à la SNCF, elle lance un restaurant, un food truck, c'est fou comme parcours. Donc tu peux être fière effectivement, et ta maman l'est aussi, j'imagine. Et dernière question, après ce moment d'émotion que tu as la générosité de nous partager, j'aimerais que tu nous donnes, je sais pas, une citation, un mantra, une petite phrase comme ça que t'aimes bien dire aux autres ou te dire à toi.
Après la pluie, le beau temps.
Ah, ça j'aime bien. Bah écoute, il fait plein soleil aujourd'hui, on termine parfaitement l'épisode. Et justement, pour clore complètement l'épisode, est-ce que tu peux nous dire un petit peu où on veut te retrouver ? Alors pour les gens qui sont sur Tours, nous détailler un petit peu, alors pas forcément tous tes emplacements, mais en tout cas les principaux. Et puis ceux qui ne seraient pas sur Tours et qui veulent en apprendre un petit peu plus sur toi, les réseaux sociaux, peut-être ouais. Dis-nous un petit peu tout ça.
Donc le lundi, je suis sur le parking de Décathlon Tours Nord.
Ouais, ok.
Le mardi, sur le parking de Leroy Merlin Chambray.
D'accord.
Le jeudi sur Jardiland Tours Nord.
Oui.
Et à partir de la rentrée, je serai un vendredi sur deux chez Transdev à Tours.
Ok, très bien. Mais de toute façon, je mettrai dans les notes de l'épisode toutes ces infos.
Et puis, les réseaux sociaux, oui, j'ai un site internet, donc lacanca.com.
D'accord.
Et sur Facebook, lacanca, et sur Instagram, lacanca.
Lacanca aussi. Bon, et bien parfait. Merci mille fois, Candice, pour ce parcours impressionnant que tu nous as raconté et ta générosité. Et puis, je te dis à très bientôt.
Avec grand plaisir, merci.
Merci. Et voilà, l'épisode est terminé. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à laisser un commentaire et un avis 5 étoiles sur Apple Podcasts ou sur votre plateforme d'écoute préférée. Sachez que ces avis sont très importants pour moi et pour le podcast. Et puis pour suivre comme elle, rendez-vous sur Instagram ou sur Facebook @comeelle.lepodcast. Merci de votre soutien et puis je vous dis à dans 15 jours.